première chronique de ce mois d'avril 2017, le sujet étant « Éduquer sans punir ni récompenser ». Nous avons comme invité aujourd'hui Laure Thué. Alors Laure, vous êtes maman de deux enfants, éducatrice Montessori, vous avez été formée à l'accompagnement des parents par Catherine Dumontail-Crémer. Vous organisez aussi des séances pour les parents, mais aussi des cafés, notamment le Peps Café au Petit Saloon à Gap. Pouvez-vous d'abord présenter Catherine Dumontail-Crémer et ensuite expliquer aux auditeurs le but de cet accompagnement familial que vous mettez en place ?
Catherine Dumontail-Crémer, oh là là, il y a tant de choses à dire sur elle. Elle est auteure, donc elle a écrit beaucoup de livres sur la parentalité positive, dont « Élever son enfant autrement »,« Une nouvelle autorité sans punition ni fessée »,« Poser des limites à son enfant et les respecter ». Donc ça, c'est trois de ses ouvrages, donc les titres parlent bien. Elle a été également éducatrice Montessori, elle est conférencière... elle est aussi à l'origine, avec la Maison des Enfants, une association qu'elle a créée, à l'origine de la journée de la non-violence éducative, qui est donc le 30 avril tous les ans. Elle a été maman, et puis belle-maman, donc elle a expérimenté lors de ses formations, enfin tout ce qu'elle dégage aujourd'hui. Elle l'a mis en pratique.
Dans vos ateliers, en groupe ou en individuel, qu'est-ce que vous mettez en place ? Quel est le but de cet accompagnement familial ?
Alors, le cycle de formation parentale que je propose, Vivre et grandir ensemble, a été créé par Catherine Dumontail-Crémer. Et donc, ce que je propose, c'est 8 séances. Donc, c'est un chemin en 8 étapes vers une autre parentalité, vers plus de liens. Voilà. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de créer le lien entre le parent et l'enfant, et un lien différent, avec plus de respect, plus de rire, mettre de la joie dans la vie de famille, c'est un des thèmes qu'on aborde. Il y a également l'écoute, le soutien, donc c'est vraiment entendre ce que son enfant a à dire et l'accompagner au mieux, au plus proche de ses besoins, mais aussi au plus proche de nos besoins. Voilà, et la dernière séance, j'en passe quelques-unes, mais la dernière séance, c'est renaître à soi-même en accompagnant son enfant. Donc c'est bien que... C'est vraiment un chemin en pleine conscience, et c'est différentes étapes qui vraiment vont amener à créer quelque chose de plus gai, de plus sain.
Abordons le premier thème de cette chronique, comment on fait pour ne pas punir son enfant, par exemple. Votre enfant est frustré, en colère parce que vous lui avez dit non, et là, il vous met un coup de pied. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour ne pas punir son enfant ?
Donc en fait, ton enfant est frustré parce que tu viens de lui dire non. Donc il va exprimer une émotion. Et les émotions, souvent, il n'y a pas de... On ne peut pas réguler une émotion chez un enfant qui est tout petit. Et l'idée, c'est vraiment que l'émotion sorte et soit à l'extérieur. Là, en l'occurrence, c'est une crise de colère, une crise de rage. On va souvent parler de caprice, mais ce n'est pas un caprice. C'est vraiment une émotion qui s'exprime. Il n'a pas d'autre choix que de l'exprimer. Donc, il faut qu'elle sorte. Parce qu'une émotion qui est réprimée, elle reste à l'intérieur de nous et elle s'accumule avec d'autres émotions et à un moment donné, ça va péter encore plus fort. Mais du coup, il faudrait accueillir cette colère. Donc oui, effectivement, on se prend des coups, on peut se prendre des coups. L'idée, c'est pas de se faire taper par son enfant, c'est de se protéger et de protéger son enfant. Et lui, il a pas son cerveau, il est pas assez mature pour gérer quoi que ce soit. Donc peut-être se protéger soi et puis protéger son enfant. Alors moi je sais que j'expérimente souvent le matelas énorme avec les matelas autour et les coussins. Lorsqu'il y a une crise de colère qui s'exprime, j'emmène ma fille ou mon enfant sur ce lieu-là et je reste avec elle et je lui parle de ses émotions. J'expose pas, mais je mets des mots sur ce qu'elle ressent parce que cet enfant-là, il est débordé par ce qui lui arrive en fait. Voilà, j'ai l'exemple aussi d'un adulte, même un adulte, quand, je sais pas, quand la colère nous emporte, on a tendance à avoir peur de cette colère. On se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? J'ai des visions de moi en train de faire des choses. Voilà, comment est-ce que je peux gérer ça? Et il faut juste imaginer que votre enfant, il est dans le même cas que vous. Et que souvent, on envoie un enfant se calmer tout seul dans une pièce, mais il est face à cette colère et la peur prend le dessus. Donc d'autres choses sont accumulées. Donc d'être prêt auprès de son enfant et peut-être, ok, on s'est pris le coup, on fait attention pour ne plus s'en prendre un autre et on l'accompagne au mieux.
Et dans cette gestion de la colère, il vaut mieux qu'elle s'exprime, la laisser sortir, quitte à, par exemple, lui acheter un punching ball ou un matelas, comme vous disiez.
Oui, après, quand on est en colère, on a du mal à se dire... le cerveau, il ne pense plus, là. Donc, soit on lui met le coussin sous les mains, soit sous la tête. Je sais que... Se dire, il faut que j'aille taper sur un punching ball, c'est compliqué quand la colère nous submerge. Enfin, voilà, on n'a pas le temps de ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'offre mes mains à mon enfant. Donc, il va taper sur les mains, il va se jeter sur le coussin, il va se jeter sur le matelas. Il va pouvoir l'exprimer, effectivement. Il faut qu'elle sorte à cet âge-là.
Autre point de ce chapitre sur les non-punitions, il y a une loi qui est sortie l'année dernière sur l'interdiction des punitions corporelles et toute une polémique autour de la fessée, puisque dans cette loi, il n'y avait rien de précis quant aux violences corporelles. Et dans un article du PEPS Magazine, que vous connaissez, Olivier Morel, qui est chroniqueur, parlait de Maurice Berger et de son livre « La fessée est-elle une maltraitance ?» Et cet auteur disait, je cite, « Pour lui, la fessée n'est pas un problème de santé publique et il ne faut surtout pas l'interdire. » Quel est votre point de vue, Laure ?
Pour moi, je ne suis pas tellement d'accord non plus avec Maurice Berger. Pour moi, la fessée, c'est une humiliation, c'est une violence. Après, il peut pas y avoir de petites fessées, de grosses fessées. Le geste est là et la rupture dans la relation parent-enfant est présente, que la fessée soit petite ou grosse. Et puis, où s'arrête le coup, où est-ce que ça démarre? Petite fessée, cette grosse fessée,
Ça reste de la violence, en tout cas.
Pour moi, ça reste de la violence, oui, bien sûr, oui.
Par rapport au fait de ne pas punir notre enfant, vos enfants, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis si votre enfant fait un acte répréhensible, entre guillemets, une bêtise? Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais quelle sera votre réaction?
Alors, ce qui me vient, ça peut être l'autre jour... je vais parler de moi. Donc, mon enfant secoue son biberon dans l'appartement. Et du coup, forcément, il y en a de partout. certains vont l'appeler bêtise. Et effectivement, j'aime pas ce terme-là parce que il va expérimenter. En fait, pour moi, c'est de l'expérimentation. Sauf que moi, mon besoin, c'est que mon appartement reste entier. Donc, on n'est plus en accord. L'idée, c'est vraiment d'accompagner son enfant vers ses expériences, mais en se protégeant soi aussi. Peut-être pré-expérimenter ça à l'extérieur, ou peut-être que c'est simplement le mouvement qu'il a besoin de répéter au moment où il le fait. Donc, je sais pas, prendre une grande nappe blanche en papier à mettre sur le mur et lui donner des pinceaux. Voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner au plus proche de ses besoins son enfant. D'être à son écoute, de l'observer et plutôt que de réprimander en disant non, le biberon je te le reprends, l'enfant il aura toujours besoin de bouger et de faire. Donc l'idée c'est qu'il puisse faire mais encadré.
Oui, donc par contre si on crée la frustration en lui enlevant le biberon, du coup il va s'énerver, il va peut-être pleurer. Et donc cette méthode-là, la parentalité créative, vise à ne pas réprimer ce besoin-là.
Au plus qu'on peut. Après, il arrive que il y a des moments où c'est pas possible et on n'est pas dans le, on va pas frustrer l'enfant en faisant exprès de le frustrer, ou si on peut effectivement pas l'accompagner, il y aura une frustration qui va s'en dégager et là la demande ça va être d'écouter la frustration, d'écouter les émotions qui en découlent, mais essayer de l'accompagner pour qu'il y ait le moins de frustration possible.
Ouais. On va faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes.
Corcovado parted the sky, and through the darkness on us he shined. Crucified in stone, still his blood is my own. Glory behold, all my eyes have seen, has seen. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed to be a witness. Some have flown away and can't be with us here today. Like the hills of my home, some have crumbled and now are gone. Gather around, for today won't come again, won't come again. I am blessed, 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 I am blessed to be a witness.
De retour pour cette chronique avec Laure Thué. Le 30 avril prochain, c'est la journée de la non-violence éducative en France. Quelles actions ou manifestations proposez-vous dans le département ?
Alors le 15 avril, je propose une petite conférence débat de 10h à midi au pôle bien-être et l'après-midi un atelier sur « Quand la colère nous emporte ». Et voilà, et le thème de la conférence, c'est sur la pose de limite, justement. La pose de limite en respectant son enfant. Et le 29 avril, à l'Argentière, je participe également à une journée qui a été mise en place pour la journée de la non-violence éducative. Et je refais cette conférence sur la pose de limite en respectant son enfant, de 18h à 20h.
Le deuxième point de cette chronique, on ne devrait pas récompenser son enfant. On connaît tous le vieux système de la carotte. Par exemple, si tu es sage, on ira au cinéma. Qu'est-ce que ce système de récompense crée comme relation entre le parent et l'enfant? Et quelle alternative proposez-vous?
Alors, ce que ça crée dans la relation parent, entre le parent et l'enfant, il y aura... c'est une sorte de manipulation. Si je fais pas ça, si je fais pas ce que mon parent demande, je vais être réprimandée. Donc je vais faire ce que mon parent demande pour avoir ce que j'aimerais avoir. Mais en même temps, on se perd. Enfin, l'enfant, il sait plus tellement. Il y a pas tellement de lien entre être sage et aller au cinéma, manger son plat et manger son dessert. En fait, l'enfant va oublier d'être qui il est et va devenir celui que son parent aimerait qu'il soit. Voilà, et c'est comme ça qu'on va le tenir et qu'on va réussir à lui faire faire des choses qu'on a envie qu'il fasse et que son corps n'a pas forcément envie de faire et que je pense que ça va l'emmener à s'oublier. Et puis dans votre question, il y a aussi le fait de demander à l'enfant d'être sage. Mais qu'est-ce que veut dire être sage? Ça veut dire se conformer à ce que veut le parent. Et voilà, donc on oublie totalement ses propres envies, son être profond.
Mais il y a une question qui me vient, est-ce que les parents ont vraiment conscience de manipuler leurs enfants quand ils font ça? Parce que c'est vieux comme le monde, ce système de récompense de la carotte. Comment on fait pour en prendre conscience et pour changer sa manière de faire avec son enfant?
Et ben, vous parliez de conscience, exactement, c'est le mot que j'allais employer. C'est vraiment de mettre de la conscience sur notre mode d'éducation. Et mettre de la conscience aussi sur comment a-t-on nous-mêmes été élevés. Et souvent, on va reproduire des schémas, on va demander des choses à notre enfant spontanément ou automatiquement, machinalement, parce qu'on a été élevé de cette manière-là. Mes pâtes écoutent sur la table, pourquoi? Je ne sais pas. Enfin voilà, on est souvent dans ce genre de demandes auprès de nos enfants et on ne sait même pas pourquoi on le fait. On retransmet simplement de génération en génération. Donc oui, effectivement, la parentalité positive, c'est ça. C'est aussi mettre de la conscience sur tout ce qu'on demande à notre enfant. Je dis non, là, pourquoi je dis non? Est-ce que ça vaut le coup de dire non? Est-ce que ça vaut pas un oui? Est-ce qu'on ne peut pas accompagner vers autre chose, justement?
Mais si on veut que notre enfant nous obéisse, on ne doit pas lui donner de carotte au bout.
Eh bien, en fait, l'autodiscipline s'acquiert par le développement de la conscience et pas par l'obéissance. Donc voilà, ils vont apprendre au fur et à mesure nos règles de vie et simplement en nous observant. Et peut-être, oui, essayer justement de mettre de la joie et puis un contournement à des ordres qu'on va poser, mais la table, fais ceci, fais cela, ça peut être, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que, non, t'as pas envie aujourd'hui? Ok, peut-être accepter le nom de son enfant aussi. Peut-être aussi s'imaginer que votre enfant est votre invité. Est-ce que je me comporterais de cette manière-là avec mon invité? Et puis l'enfant, il vit vraiment au moment présent. Il n'y a pas de tout à l'heure, c'est maintenant. Donc un acte qui a été commis ou fait au moment présent, il ne doit pas influencer le reste de la journée. Voilà, c'est pas sous condition que je t'aime, c'est pas sous condition qu'on ira au cinéma, ça fait partie du programme et... Et c'est pas parce que tu fais pas ce que je te demande là qu'on n'ira pas au cinéma. Faut qu'il y ait un lien.
En parlant de lien, est-ce qu'il n'y a pas entre l'enfant et son parent cette relation du regard de l'autre, de vouloir plaire?
Tout à fait, exactement. La récompense va amener ça. Il va sans cesse avoir besoin du regard de son parent et il va plus rien faire pour lui-même, en fait. Et du coup, il va se mouler dans ce que le parent apprécie et voilà. Et puis quand il n'y a plus de récompense ou quand il n'y a plus de bravo ou de félicitations ou c'est magnifique, et il y a un manque derrière. Donc peut-être accompagner son enfant en lui demandant ce qu'il ressent lui. Qu'est-ce que tu ressens d'avoir fait ça, d'avoir pu accomplir ça, enfin de le ramener à lui régulièrement et pas à c'est bien, c'est exactement ce que je te demandais de faire.
Eh bien, merci Laure. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette première chronique de l'éducation positive dont le sujet était éduquer son enfant sans le punir ni récompenser?
Je dirais peut-être de mettre de la conscience dans nos interactions, la conscience dans Non, pourquoi est-ce que je pose ce nom-là maintenant? Est-ce que c'est un vrai nom? Est-ce que je ressens nom? Ou est-ce que c'est un nom qui m'a été transmis de génération en génération? Et puis, essayer de lâcher peut-être les règles dites de société, comme l'écoute sur la table ou...
Ou ne pas chanter à table, par exemple.
Ou ne pas chanter à table, exactement. Et puis surtout, vivre le moment présent avec ses enfants et être persuadée que nos enfants ne nous veulent pas de mal. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire du mal à la personne qui est responsable d'eux, dont ils ne pourraient même pas se passer. Donc voilà, changer peut-être ce regard-là.